Rémi, on sous-estime les impacts des défaites. La plaine d'Abraham, même si c'est une bataille qui a duré 20 minutes, où on n'a pas vraiment perdu parce qu'ils ont gagné à Sainte-Foy un peu plus tard, mais quand même, la France s'est débarrassée de son empire avec une signature sur un papier.
Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, bien, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a deux options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, bien, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre, vous pesez là-dessus. Et dans les deux cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, bien, à mardi prochain. Merci. Vous gérez une PME et vous avez l'impression que vos outils numériques ne travaillent pas assez fort pour vous? Vixam Service Conseil, c'est l'équipe qui change ça. Basés à Montréal, ils accompagnent les PME québécoises dans leur transformation numérique grâce à des outils Microsoft pour gérer vos ventes, automatiser vos tâches du quotidien et prendre de meilleures décisions grâce à vos données. Et avec Microsoft Copilot, l'intelligence artificielle s'intègre directement dans vos processus d'affaires pour que votre équipe travaille plus vite, plus intelligemment, sans tout réapprendre. Que vous ayez besoin d'un CRM sur mesure, d'applications internes, d'automatisation ou d'IA, Vixam a l'expertise pour le faire et l'approche humaine pour vous accompagner jusqu'au bout. Découvrez-les au vixam.ca, V-I-C-S-A-M.ca. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, je reçois Alexis Martin, un comédien, bonjour.
Allô.
Dramaturge, auteur, romancier désormais.
Ben oui.
On va en parler de ce premier roman.
Avec plaisir.
L'étoile de la rédemption. Je vous ai dit par contre avant qu'on s'installe que j'allais vous parler d'un rôle que vous avez joué qui moi m'a marqué. Je vous ai dit, d'après moi, on ne doit pas souvent vous en parler, ouais. De Laurent Barbeau dans Vice caché. On fait ça des fois?
Rarement.
Ah, moi, ça m'a marqué, ça, parce que mes parents avaient le DVD de Vice caché au sous-sol.
Ah oui.
Puis moi, j'étais très jeune, puis Vice caché, je me disais, c'est sûr, c'est bon, cette affaire-là. Puis Laurent Barbeau, que vous jouez dans cette série-là, c'est un genre d'animateur de radio, style Ron Fournier, exact. Mais plus méchant, un peu.
Ouais.
C'est ça?
Ah oui.
Puis à un moment donné, vous jouez, il y a une scène où vous recevez des appels, donc faites des tribunes téléphoniques.
Ouais.
Puis il y a quelqu'un qui appelle, puis vous l'humiliez en onde. Mais là, vous allez devoir le rencontrer dans la vraie vie, cette personne-là, qui ne l'a pas soutenu, qui ne l'a pas vraiment bien prise, cette humiliation-là. Puis vous jouez tellement bien, cette affaire-là. On vous accompagne partout, à l'épicerie, en ville.
Écoute, tu me le rappelles, j'ai pas trop souvenir de cette scène-là spécifiquement. Mais non, on m'en parle pas, t'as raison. Mais c'est un beau souvenir, par exemple. Et je dirais que c'est une des dernières grosses séries lourdes à TVA. Écoute, on avait un budget appréciable. On avait un casting, tu sais, il y avait Luc Picard, il y avait Marie-France Lambert, il y avait toutes sortes de monde. François Papineau,
ben oui. Écoute, Alexis Martin.
Puis il y avait des moyens un peu. T'sais. Alors, c'est un beau souvenir, ça. C'était Louis Saya, notre cher Louis, qui pilotait ça, Louis Saya. Puis il y avait des moyens, tu sais. Moi, je trouve que c'est comme... puis après la télé québécoise, on a commencé à sentir une sorte de... ça s'est resserré.
Ouais.
Les difficultés, les contraintes. Là, ouais.
C'est particulier quand même, hein, parce que généralement, on a de plus en plus d'argent pour faire les choses. C'est pas le contraire. La télé, c'est peut-être...
c'est pas ça qui arrive.
Non.
Non. Non, je pense que ben, tu le sais, mais je ne suis pas un expert là-dedans, mais tu le devines, c'est vraiment l'assiette publicitaire qui a fondu, au fond. Tu sais, des gens comme Pierre-Carl Péladeau le répète, puis avec raison, c'est-à-dire que les revenus sont plus là, là, les revenus publicitaires sont plus là, à cause, j'imagine, de l'Internet ou des GAFAM ou je ne sais pas quoi, là, je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais on sent que c'est plus le même, c'est plus ce que c'était.
Puis
ce qui fait que, moi, je te dirais que, comme acteur, moi, j'ai quand même vu l'évolution, parce que ça fait 40 ans, là. On tourne beaucoup dans une journée. On tourne très vite. C'est sûr que la technologie a facilité, parce que moi aussi, j'ai vu, tu sais, quand on tournait avec des trucs lourdeaux, puis tout ça, puis tourner en extérieur, c'était compliqué. Aujourd'hui, le matériel est souple. accessible. Ça accélère le processus, sauf qu'on se ramasse, nous, à jouer beaucoup plus de scènes qu'avant, à tourner beaucoup plus de pages scénarios par jour qu'avant. Ce qui fait qu'à un moment donné, je trouve qu'au niveau du jeu, on perd des fois un peu d'invention ou d'audace.
Ça doit être... Est-ce que c'est moins inspirant aussi pour un acteur là, d'avoir de tourner 10 pages par jour?
Oui, parce que je trouve que des fois, on est un peu en mode survie. Il faut se rendre au bout de la journée, il faut dire toutes les lignes, il faut se tromper le moins possible parce qu'on nous fait sentir qu'on n'a pas le temps de se tromper trop. Tu sais, il y a comme un climat qui s'installe peu à peu de « il faut passer à travers ». Bon, ça ne veut pas dire que ça fait des mauvaises choses, mais c'est moins amusant, c'est moins inventif. Et puis, des fois, je trouve qu'on commence à jouer de façon un peu réflexe sur des facilités, sur des tics. C'est ça qui arrive dans le jeu. Quand on n'a pas le temps d'approfondir quelque chose, bien, on se rabat sur nos forces ou nos facilités. Fait que ça a tendance à unifier le jeu un peu.
Moi, on m'a même dit que parce qu'il faut tourner plus vite, les jeunes comédiens ont moins d'opportunités de jouer des rôles importants parce qu'ils se trompent, ils commencent. Donc, on va chercher des acteurs plus chevronnés. Donc, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Je ne sais pas si vous l'avez observé.
Écoute, c'est intéressant. C'est parce qu'au fond, le casting, c'est le casting. Si tu as besoin d'un jeune, ça prend un jeune. Donc, tu ne peux pas prendre quelqu'un de chevronné pour jouer quelqu'un de 25 ans. Mais après, est-ce que c'est vrai qu'on revoit souvent les mêmes parce que ça rassure les producteurs? Il y a peut-être, oui, ça rassure les producteurs au niveau de l'audimat, mais peut-être que ça les rassure aussi au niveau de la livraison. Sans doute, peut-être qu'il y a un aspect de ça, oui.
Pourquoi un roman?
Écoute, je suis un grand lecteur de romans. À 16 ans, je voulais être romancier, moi. Ça a toujours été... C'était mon rêve, au fond. Je rêvais pas d'être joueur dans la Ligue nationale. Peut-être plus petit, mais à 16 ans, ce que je rêvais de faire, c'est d'écrire des romans, d'écrire des grands romans. Je lisais beaucoup de romans. Ça a habité ma vie. Ça m'a beaucoup soutenu dans ma vie, même dans les moments difficiles. J'ai beaucoup habité les romans que je lisais. Mais la vie a fait que je suis allé vers le théâtre, puis... J'avais une famille, tout ça. Fait que là, le temps est limité. Fait que je me suis mis à écrire des pièces de théâtre. Puis il fallait que je fasse ça pour vivre, pour travailler. Parce que, tu sais, si je n'avais pas été auteur de théâtre, je pense pas que j'aurais fait une grosse carrière en théâtre en partant, là. Tu sais, j'ai été obligé de créer ma job aussi beaucoup en écrivant. Puis comme j'étais en théâtre, bien, ça a été le théâtre. Puis je regrette pas, mais écrire des romans, c'est un investissement, c'est beaucoup de temps. Puis je te dis, c'est ça. Fait que ça a pris... jusqu'à 61 ans pour que je publie.
Écrire du théâtre, on peut le faire seul, mais il y en a beaucoup qui le font en équipe, un peu en troupe, alors qu'un roman, on écrit ça impérativement seul.
Oui.
Est-ce que c'est ça aussi qui est arrivé? C'est que vous avez eu une vie, puis je parle pas d'elle au passé, mais vous avez eu une étape de votre vie où vous étiez plusieurs en gang, puis là, on se mettait plusieurs mains dans parce qu'il y a beaucoup de projets que vous avez écrits en équipe là,
oui.
De main.
Oui.
Et là, je sais pas, en entrant dans une autre période de votre vie, vous vous êtes peut-être posé.
Ben, écoute, tu mets le doigt dessus, c'est-à-dire que le théâtre et le cinéma, là, c'est des métiers d'équipe. Au fond, au théâtre, on est toujours en train de dealer avec des gens, pour le meilleur et pour le pire. Metteur en scène, comédien, producteur, scénographe. On est toujours, en fait, un peu en train de... OK, voici, j'ai inventé ça, là, mais je dois vous l'expliquer puis je dois vous convaincre de mettre votre input là-dedans. Le théâtre, c'est exigeant pour ça. Et puis après, il y a la rencontre avec le public. C'est aussi un dialogue quand on joue sur scène. Puis, ah, j'ai-tu écrit à bonne affaire? Ils n'ont pas l'air de comprendre ce que j'ai écrit. Tu es toujours en train de vivre avec, pour les autres. Ce qui est bien, j'ai adoré ça. Mais là, le roman, tout à coup, oui, là, t'as raison, je me paye une traite. Je suis comme dans ma chambre d'écho, tout seul, là. Puis là, je me réponds à moi-même. Puis je m'enfonce dans mes souvenirs, le témoignage... Et là, tout à coup, j'ai ce sentier-là à tracer moi-même, puis je suis moins à répondre aux attentes des autres.
Oui, puis le théâtre, ça se réécrit. Hein? On fait une représentation, puis on voit que ça ne rit pas pantoute là où ça devait écrire.
Ben oui.
Ça devait rire, on retourne à la maison, on réécrit un roman. Quand on envoie la dernière version, c'est terminé. Là.
Voilà, ça ne t'appartient plus.
Qu'est-ce que ça coûte au corps d'écrire un roman par rapport au théâtre?
Ah, c'est une très bonne question. Mais tu sais, le théâtre, c'est quand même un métier très physique. Moi, je dis toujours au théâtre, on écrit pour des poumons. Tu sais, c'est très concret, au fond. quand j'écris, je pense aux poumons, aux miens, puis à ceux des gens qui vont partager la scène avec moi dans la pièce que j'ai écrite. Donc, on écrit pour des poumons. Le théâtre, le roman, dans mon cas, là, d'abord, ça a pris beaucoup plus de temps. Et c'est comme une plongée dans une mémoire plus longue, dans un temps plus long. Et là, ça peut être bouleversant, que ça va avoir l'air un peu curieux, un peu ésotérique, mais il y a des moments où on arrive dans des zones où on réveille des souvenirs, où on réveille des choses, et ça devient bouleversant. Et il faut arrêter d'écrire des fois, aller marcher dehors. Pourtant, c'est un papier puis un crayon, il n'y a rien de plus neutre ou moins agressant que ça, mais tout à coup, tu réveilles des choses et ça peut être très bouleversant. Ouais.
Ouais. Je vais vous envoyer une fleur. Alors, le roman, je l'ai lu et j'étais dubitatif au début. J'avais même pas tourné encore une page parce que, Alexis Martin écrit un roman. Là, je me suis dit, bon, OK, peut-être. T'sais, j'ai quand même pensé une seule seconde que voici le trip d'un monsieur qui a écrit toutes sortes d'affaires, qui a fait des rôles spectaculaires, dont moi, je me rappelle, étant ado. Et là, il s'essaye au roman. Ça pourrait être mauvais.
Ben, oui.
Et en plus, ces temps-ci, ça n'a rien à voir avec vous, mais j'ai beaucoup de difficultés à entrer dans les romans parce que je trouve, mon cerveau, malheureusement, a peut-être besoin d'une correction, mais je trouve que les auteurs de romans, des fois, prennent un temps fou à installer les affaires, puis je suis un gars de ma génération, là, j'ai besoin d'être happé. Et ce roman-là happe très rapidement. Oh ben. D'ailleurs, le personnage principal, et je veux pas trop en dire, j'encourage quand même les gens à le lire, le personnage principal va commettre une bourde, une erreur, que d'ailleurs j'ai lu dans certaines critiques, certains disaient c'est comme de l'auto-sabotage un peu. Moi, je le vois pas de même. Non. Je vois ça comme une erreur, et tout le monde peut en commettre des erreurs, et à partir de cette erreur-là, là, vraiment, il y a toute une histoire qui lui arrive au personnage. Cette erreur-là, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, la façon de nous faire réaliser que tout le monde peut la commettre, finalement. Ouais. Tout le monde peut tomber là. Évidemment, tout ce qui la précède, ça lui appartient au personnage, mais c'est fou comment la vie, des fois, à partir d'une niaiserie, d'une erreur, peut nous amener complètement ailleurs.
C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que, oui, c'est une erreur. Peut-être que s'il n'avait pas été à jeun, il ne l'aurait pas fait. Mais je me demande si cette erreur-là... Puis, tu sais, ton interprétation est bonne comme celle des autres. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau qu'un roman.
Oui,
on a le droit
fait.
De...
J'enlève rien. Non.
Est-ce que cette erreur-là, au fond, inconsciemment, il souhaitait la faire parce qu'il n'était plus bien dans sa peau? Puis il voulait dire adieu à sa carrière de publicitaire. Mais moi-même, je n'ai pas la réponse exacte. Puis pas vraiment important. Ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est que à partir d'un fait qui peut sembler un peu insignifiant ou anecdotique, la vie peut basculer. Et là, qu'est-ce que les gens vont faire? Et au fond, c'est l'histoire d'un gars qui est pas heureux et puis qui déchire le fil ordinaire de sa vie. Puis là, qu'est-ce qu'il va trouver pour se retrouver un sens, pour retrouver une joie de vivre? C'est ça, hein, c'est pas compliqué. C'est des vieilles recettes romanesques, mais je pense que c'est toujours toujours d'actualité.
Non, mais c'est bien exécuté. Puis,
ben merci.
Puis je le répète, c'est-à-dire que comme lecteur, les gens sont de moins en moins patients.
Ouais.
Et la télé est là pour nous
mais
happer.
Mais je suis comme toi, Rémi. Moi aussi, tu sais, je lis beaucoup, puis j'aime ça être happé vite. Puis, tu sais, je suis un gros lecteur de polar, vraiment policier. Fait. D'ailleurs, une de mes craintes, c'est que j'avais peur que mon roman soit un peu lent à décoller parce que c'est pas un polar que j'écris alors que moi, je lis beaucoup de ça puis c'est sûr que j'en ai un dans mes plans depuis longtemps que je veux écrire. Mais j'aime ça, moi, les trucs. La situation, on l'établit vite puis on veut rentrer, on veut y habiter avec le personnage principal. Fait que quand j'ai écrit ce roman-là, quand je l'ai publié, je dis ah, est-ce que les gens vont... Ben, alors, ça me rassure beaucoup que tu me dises que t'as pas eu trop de difficultés
non.
à entrer dedans.
Non, non, non. Il faut dire que je lis en parallèle les frères Karamazov, là, donc... non, mais c'est un exemple parfait de « Caroline, y peux-tu arriver quelque chose, s'il
oui.
vous plaît? »
Mais sois patient, parce que tu vas être récompensé.
Ah oui, ben regardez, ça, je l'ai entendu.
Tu vas être récompensé. Moi, c'est un de mes romans favoris que mon père m'a offert quand j'avais 16 ans. C'est l'histoire de trois frères. On était trois frères chez nous. Le plus jeune s'appelait Alexis. Moi, je suis le plus jeune, Alyosha. C'était un roman très significant pour moi. Oui, il y a un aspect de digression à un moment donné. On dit, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Mais il y a des romans comme ça, il faut se faire à la chanson de ce roman-là, puis à un moment donné, tu ne pourras plus en sortir.
Non, mais vous m'impressionnez. Vous avez été capable de lire ça à 16 ans?
Oui, mais je n'ai pas compris grand-chose. Et c'est drôle que tu en parles, parce que je l'ai ressorti, ouais. L'édition que mon père m'avait offert, donc il y a... J'ai 62 ans, là. Donc, je ne ferai pas les maths. Mon fils peut le faire. Moi, je ne les maths.
Là. C'est pas pire là-dedans.
Et j'ai ressorti le vieux livre des frères Karamazov, puis j'ai recommencé à lire. C'est drôle.
Ben oui.
Tu me parles de ça?
Ben, c'est un hasard. C'est à moins que ce ne soit pas un hasard. Je ne sais pas. la pub, ça, c'est un univers qui est cher au roman que vous sortez ces temps-ci. Puis c'est un univers au Québec, je trouve. Moi, j'ai connu des gens, des amis d'amis, surtout des amis de mes oncles, tantes qui ont travaillé là-dedans. Hey, c'était rock and roll, la pub au Québec, là. Tu sais, c'était des gros parties. Il y avait de l'argent, puis il y avait de la... Tu sais, c'était vulgaire par moments aussi. C'est un milieu qu'on connaît pas très bien. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas vraiment exploité. Tu sais, Becbédé a écrit un livre là-dessus, mais pour nous, c'est la France, c'est la pub française. Chose, mais ici, on n'a pas trop regardé
ça. Moi, j'ai un frère qui a été publicitaire et dans les années dont tu parles, les grosses années, les années 80-90, il y avait de l'argent.
Mais oui.
C'était le party, Fast Life, c'était Bling Bling, c'était... Écoute, il y avait tout le marché québécois qui était exclusif, donc les grandes agences n'avaient pas le choix d'investir dans de la création québécoise, parce que pour parler aux Canadiens français, c'est un particularisme, si tu veux. On est un isolat, nous autres, en Amérique du Nord. Fait qu'ils pouvaient pas concevoir ça à Toronto ou à Vancouver. Il fallait engager du monde. Fait qu'il y avait des campagnes exclusives pour le Québec, donc c'était un marché incroyable. C'est plus comme ça aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Beaucoup changé. Mais à l'époque, mon frère m'a raconté beaucoup de choses, fait que j'ai beaucoup connu d'anecdotes à travers mon frère qui était publicitaire. Puis c'est vrai ce que tu dis, c'était un peu orgiastique par moments.
Bien, en fait, c'est presque contraire à l'idée qu'on se fait du Québec. C'est-à-dire le Québec est modeste, le Québec est parfois même pénitentiel. T'sais, il s'interdit de célébrer quoi que ce soit parce que ça... Y a-tu le droit de faire ça, le Québec? On est quand même le petit Québec, ça. C'est le nom de notre fromage. Non, mais c'est vrai.
Ben, oui.
Non, mais et la pub, c'est l'esprit de party, là, tu sais. Puis est-ce que c'est aussi pas... la parfaite métaphore de l'humanité, c'est-à-dire c'est beaucoup de mensonges en publicité, beaucoup d'illusions, beaucoup d'apparat, de mise en scène.
Ben écoute, je pense que c'est le sidecar du capitalisme. C'est-à-dire, tu as une moto puis tu as un sidecar. Le sidecar, c'est la publicité. C'est-à-dire que ça va ensemble. On est dans une... Tu le sais, on est sur une société de consommation, d'hyperconsommation. Puis les gens se définissent en bonne partie par leur statut de consommateur. Je suis capable de consommer à la hauteur de ce qu'on veut me vendre. La publicité, tu comprends, c'est le cheval, c'est l'engin, là, tu sais. Puis moi, je suis un né en 64, je suis vraiment un enfant de la télévision. Moi, ma génération, on est né avec la télévision et avec l'omniprésence de la publicité, à un point que mes parents, mes grands-parents n'avaient pas connu ça. Nous, on est vraiment des enfants nés dans la publicité. C'est pas pour rien que, quand on était jeunes, les premiers sketchs qu'on faisait, c'était souvent des parodies de publicité. Parce que c'était tellement omniprésent, les premiers sketchs, les au collège, à l'école. Parce que c'était devenu la toile de fond de nos vies. Je pense que ça l'est encore, mais nous, on est vraiment la première génération, je pense, à être né avec la publicité moderne, évidemment, parce qu'il y en a toujours eu de la publicité sous d'autres formes, mais aussi de façon aussi évasive, aussi omniprésente. Je pense qu'on est la première génération. Donc, pour moi, c'est normal de parler de ça. C'est fondateur, au fond. Et oui, écoute, c'est sûr que c'est une mise en scène, mais tu sais... Le langage, c'est une mise en scène. La vie en société, c'est une mise en scène. La publicité est pas pire qu'autre chose. C'est juste qu'il faut avoir les codes. Moi, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui ont plus les codes. Ils sont tellement exposés qu'ils finissent par, j'espère, à être capables de décoder le bon grain de l'ivraie, là, tu sais, parce que c'est des mensonges, c'est une mise en scène, c'est sûr, mais... peut-être que, je me souviens, moi, je ne sais pas si toi, tu as eu ça, mais nous, on avait déjà dans nos cours de communication des trucs sur la publicité, des cours sur la publicité pour apprendre à démonter cette affaire-là. Il faut s'armer par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est une forme de propagande.
Oui, mais en tout cas, c'est incroyablement efficace parce que
ah oui.
Tu es assis devant ta télé, tu regardes, je ne sais pas... le hockey, puis il y a une pub de Coke ou de Ford F-150 qui passe, puis tu te dis, hey, moi, j'ai jamais acheté un Ford F-150 parce que ça roule dans le gravier devant moi. Ben, je pense qu'ils en vendent grâce à ces pubs-là parce que ça existe encore. Non, mais c'est simple quand même. C'est très simple. On te met le camion, il roule, puis ça va dans ta tête.
Tu sais aussi, c'est le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Alors, si tu vois un beau gars, une belle fille qui roule en décapotable, tu te dis, moi aussi, je vais être heureux comme eux autres. Si ça prend, ce que ça prend, c'est d'acheter ce char-là, ben, je vais l'acheter. Parce que je veux connaître le désir qu'eux connaissent, parce qu'ils ont satisfait leur désir. Je veux leur désir. Je veux me l'approprier, leur désir, parce que ça a l'air le fun.
Hey, je me suis demandé, comment vous faites pour travailler un personnage? Quand vous recevez un scénario, là, j'imagine en plus que je pense que je vous ai même lu dans une entrevue dire que là, vous étiez à l'étape de faire des choix, là, presque même à ralentir un peu la cadence puis à bien sélectionner les rôles. Quand vous avez accepté un rôle puis que là, vous recevez les scénarios, comment vous faites pour... Parce que c'est juste des mots, là. C'est des mots sur une page blanche. Hmm. Puis tout le reste, c'est vous là, qui l'inventez.
Hmm. Bonne question. C'est sûr qu'il y a toutes sortes... Il y a quand même plusieurs critères, mais d'abord, est-ce que le récit est bon? Tu sais, je pense qu'il y a ça, là. Est-ce que j'ai le goût de me prêter à ça? Ou c'est, est-ce que je suis capable de le faire? Des fois, il y a des gens qui m'ont posé des choses, puis je disais, physiquement, je peux pas, là. Tu sais, je serais pas bien physiquement, j'ai plus... Tu sais, je reviens là, c'est très physique, le jeu d'acteur. Tu sais, il y a des acteurs qui m'ont dit, leur médecin leur disait, vous avez développé un type de maladie industrielle, là. À force de faire certaines actions, certains trucs sur scène ou à la télé, on peut développer des problèmes. Physiquement, c'est assez exigeant. Donc, est-ce que physiquement, je suis capable de le faire? Après, je pense que je me demande toujours, est-ce que j'ai dans mon bagage, est-ce que j'ai enregistré quelque part une partie de ce personnage-là? Et moi, je me rends compte que j'ai passé ma vie à écouter puis à observer. J'emmagasine. Moi, je suis un gars qui emmagasine, puis beaucoup de mes amis actrices puis acteurs vont dire la même chose. C'est rien d'original là-dedans. On est toujours en train de se demander, quoi qu'on voit, quoi qu'il arrive, est-ce que ça peut me servir dans un rôle? Un incident au magasin, quelqu'un qui crie dans un restaurant, une engueulade de coupe au coin de la rue, c'est comme une déformation professionnelle. J'écoute avec une autre oreille, je dis, ah, ça pourrait-tu me servir? Donc, on est un peu comme des... Ma mère a dit des fois des scavengers, tu sais. On est comme des charognards. Chaque dépouille d'événements humains, on veut se l'approprier parce que ça peut servir. Alors, je lis un scénario, un script. Je dis, est-ce que j'ai dans mon musée intérieur ou mon grenier, là, j'ai-tu des bribes de ce que je devrais avoir à jouer là-dedans?
Parce que c'est vrai qu'on s'imagine des fois les grands acteurs, les vedettes, là, c'est celles qui font les tapis rouges. On peut s'imaginer, vu de l'extérieur, que ce sont des gens narcissiques qui ont pas d'attitude.
Ben, ça l'est des fois.
Oui, non, je sais, mais mettons, on peut même s'imaginer, on peut aller jusqu'à s'imaginer que ce sont des gens qui ont peu d'égards, peu d'attention pour les autres, mais il faut forcément être curieux, à l'écoute. Maintenant, sinon, on peut pas comprendre les prochains rôles qu'on s'apprête à jouer.
Écoute. Tellement. Moi, à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'enseigner brièvement à McGill l'écriture dramatique, un cours de lettres françaises. Puis ils m'ont invité pour une session. Puis j'étais avec des étudiants universitaires, puis ils me disaient, « Ouais, comment on écrit ça? Comment on écrit? » Ben, je dis, d'abord, vous allez sortir de chez vous, là. Puis là, je vous donne comme devoir aller dans la ville. Là, ils m'ont regardé, « Ben voyons, c'est un cours de théorie. Tu veux écrire du théâtre, mais va dans la ville. » Puis je vous donne comme mandat d'observer des gens, de les écouter. Ah, il y en a. Puis il y en a qui sont nés dans un bingo. Ils n'avaient jamais été dans un bingo de leur vie. Fait qu'ils ont passé une soirée au bingo. Tu sais, bon, c'est une anecdote, mais ce que je veux dire, c'est que sans cette écoute-là, sans ces antennes-là là, qui sont toujours sorties, je ne vois pas sur quoi tu peux construire quoi que ce soit.
Mais non, c'est impossible. C'est impossible de jouer quelqu'un qui pète une coche si tu n'as jamais. Si t'as jamais entendu quelqu'un qui pète une maudite grosse coche,
Caroline.
De brailler si t'as jamais vu quelqu'un brailler. Hey. Ça, on braille tous, mais je veux dire, il faut que tu le vois chez l'autre. Ça, c'est fascinant. Falardeau, est-ce que vous l'avez fréquenté un peu? Hein? Vous avez joué dans le party? Vous êtes le fameux détenu qui s'échappe?
Oui.
Déguisé en fille?
Écoute, ça, c'est une expérience incroyable. Alors, Falardeau, tu sais, c'était d'abord un anthropologue, en fait. Pierre. Ouais.
Maîtrise en anthropologie.
Oui.
Sur la lutte.
Oui. Un gars que j'ai beaucoup aimé. Bon. Que j'ai fait le party, mais je l'ai fréquenté aussi après. Et ce qui est fantastique, c'est que moi, je suis jeune acteur, là, je commence, puis on se connaît pas. Il dit, OK, tu vas jouer ce rôle-là, mais je vais te pairer avec un gars qui s'est vraiment évadé, qui était figurant dans le party. Oh ouais. On ne voit pas beaucoup, mais il était avec moi toute la journée. Puis tu vas le questionner, qu'est-ce que ça fait de s'évader? Fait que j'ai passé comme, je ne sais pas, 15 jours avec ce gars-là, un ex-détenu qui avait fait 3 tentatives d'évasion, qui s'est fait rattraper à chaque fois, qui s'est fait cogner solide. Un type extraordinaire, une grande gentillesse. Bon, je ne dirais pas que c'est un enfant de cœur, mais je pense que il avait payé sa dette à la société, là, comme on dit. Et il dit, OK, là, à ce moment-là, Alex, là, moi, en tout cas, j'avais vraiment... Mon problème, c'était de ne pas pisser dans mes culottes. Ah oui, il dit, oui, physiquement, je me concentrais pour ne pas pisser. Fait que là, il me donnait tous ces indices-là qui m'ont permis, moi, de construire organiquement de l'intérieur. Puis quand tu te mets dans l'état organique, tu sais, le corps humain, c'est bien fait, il envoie les signaux au cerveau. Là, la panique te gagne parce que tu penses à ça. J'ai envie de pisser. Faut pas que je pisse. Faut pas qu'il voit l'urine quand je passe tel contrôle. Puis là, la panique monte, puis tu finis par le coup. Mais c'était une rencontre extraordinaire. Pierre Falardeau, brillant, il dit, je vais le mettre avec ce gars-là qui a vécu ça. Sinon, je pense que j'aurais pas été capable de jouer ça. J'étais un petit cul de 25 ans qui avait jamais été en prison, évidemment. Et malheureusement, ce gars-là, il s'est tué. Il s'est enlevé la vie. Il avait réintégré la vie civile. Et puis, Pierre m'a dit qu'il n'était pas capable de vivre curieusement. Le gars qui a tenté de s'évader 3 fois, il n'était pas capable vraiment de vivre en dehors de la prison. Mais tu vois, ça, c'est des rencontres, là, ça vaut de l'or. C'est magique.
Il était comment, Falardeau?
Un gars brillant. Très drôle, avec beaucoup d'humour. En même temps, un aspect un peu forcené, c'est-à-dire que quand tu commences un argument avec lui, ça grimpe vite. Je sais que moi, j'avais eu des discussions sur la Palestine à l'époque ou sur les fédéralistes. Et là, il pouvait devenir, comme il dit, balistique en anglais.
Oui, oui.
Je dis, Pierre, c'est correct, on discute, mais il est passionné, mais... Alors, il était pris d'une sorte... C'était un militant. C'est un gars entier, habité d'une certaine rage de justice, je dirais. La justice, comme lui la voit,
oui.
Mais
oui.
Entier. Et c'est quelqu'un... j'aurais toujours une dette envers lui, parce que c'est lui... Je sais pas, non, tu sais, des fois, les plus vieux ont comme une préscience. Il a décidé qu'il me faisait rencontrer Louis Bélanger. Puis il nous a amenés à la boxe, tous les deux, au Forum à l'époque. C'était au Forum de Montréal, l'ancien Forum. Puis il a dit, les gars, je voulais que vous vous rencontriez parce qu'il me semble que vous avez de quoi vous dire tous les deux. Louis Bélanger. Tu sais, j'ai fait 5 films avec lui. C'est devenu un grand, grand ami. Pierre, il avait vu ça.
Dont Mauvaise Herbe, hein?
Mauvaise Herbe, ouais. Pierre, il avait vu ça. Je lui dois une fière chandelle.
Mais Falardeau, c'est drôle parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un qui l'a croisé, je me fais un cadeau... À moi puis ainsi qu'aux auditeurs, je veux en savoir plus. Moi, je fais partie d'une génération qui ne l'a pas vraiment côtoyé. Il est mort en 2009. J'avais 15 ans. Et souvent, les gens me disent à peu près ça. Ils me disent, c'était quelqu'un qui était, vous avez utilisé le mot forcené, mais quelqu'un qui prenait à cœur et personnel, finalement, sa lutte pour l'indépendance du Québec. Et c'est drôle parce qu'on on le catapulterait dans un autre pays, que le bonhomme serait tout à fait normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut l'indépendance de son pays, pas encore fait, ben c'est quelqu'un qui est forcément habité par ça. C'est pas quelqu'un dont c'est le hobby, dont c'est la discussion de taverne. C'était quelqu'un qui prenait ça personnel, puis qui comprenait pas pourquoi aussi peu de Québécois ne le prenaient pas personnel.
Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Puis j'ai eu ces discussions-là avec lui. Ceci dit, ce que tu dis est juste... Mais là, au Québec, au Canada, on est dans cette espèce de schizoïdie un peu. Là. Quand Pierre Falardeau parlait des Québécois fédéralistes, il n'en parlait pas comme des adversaires politiques, il en parlait comme des ennemis. Et c'est là que les Québécois réagissaient, disaient « ben là, il va trop loin ». Et c'est pour ça qu'il était si contesté. Il dit « il va trop loin ». Il dit, chrétien, c'est pas un traître. Claude Ryan, c'est pas un traître. C'est des gens qui ont pas ta vision du Canada. Alors, là, mais lui, il dit, non, ces gens-là ont tourné le dos à leur peuple. Donc, c'est assez extrême.
Mais vous pensez qu'il y avait tort ou simplement qu'il n'était pas en phase avec la pensée populaire?
Moi, je n'aurais pas utilisé ces mots-là. Je lui ai dit, je trouve que traître, ça va trop loin. J'étais honnête avec toi.
Moi, je
suis souverainiste, je ne m'en suis jamais caché. Mais je peux concevoir que des gens pensent que le Canada, c'est un beau deal pour les Canadiens français. Moi, je le crois pas. Je pense que c'était vraiment un mauvais deal. Mais je peux croire que des gens y croient sincèrement. Après, il y a eu des malversations, c'est certain, en 95, en 80, ça aussi. C'est sûr que je partageais son indignation envers certains ténors fédéralistes, mais le mot traite, là, c'est quelque
c'est
chose.
C'est lourd. Ça ne réconcilie pas, mais je pense pas sûr que c'était ça. Lui, c'était un dynamiteur. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui est arrivé à un moment particulier dans l'histoire. D'ailleurs, il est parti... c'est con, mais juste avant que le politiquement correct devienne assez ambiant. Moi, des fois, je m'amuse à m'imaginer qu'est-ce que ça aurait donné Falardeau aujourd'hui. Ça, je sais pas, là. Est-ce qu'il aurait été canceled?
Je pense que... Ben, il était déjà un peu à Radio-Canada. Hein.
C'est vrai.
Je pense qu'il était déjà pas invité partout. Et puis, oui, je pense que ça aurait été difficile, malheureusement, parce que... C'est bien ce que tu dis, Damiteur. Oui, au fond, c'est quelqu'un qui disait « OK, je vais y aller à coup de marteau, puis on verra. Au moins, on va ouvrir la discussion. Au moins, on va... » Ça, c'est tout à son honneur quand même. C'est courageux quand même. C'est un gars courageux. C'est un gars qui n'avait pas froid aux yeux.
Ouais. Mais il faut voir, des fois, j'imagine la route comme une sorte de carrière. C'est plein de roches, puis on ne voit pas vraiment clair. C'est sûr que pour avancer, ça prend pas des dynamiteurs, parce qu'à chaque fois qu'il fait sauter quelque chose, il y en a qui perdent des membres, puis ça, on voit plus clair. Mais il faut faire péter les roches à un moment donné parce qu'on ne dépasse pas un certain cap. Écoute, ces gens-là sont très importants.
Oui, ils sont importants, c'est vrai. Puis en même temps, ce qui est important pour moi, c'est la tolérance. C'est-à-dire que c'est la valeur clé là, qui malheureusement... moi, j'aimerais ça être un dynamiteur pour la tolérance. Qu'est-ce que c'est cette valeur-là? C'est la capacité d'écoute de l'autre, la capacité d'écouter l'autre en pensant qu'il a peut-être raison. Et ça, je trouve qu'on est en train de perdre ça. Hein, c'est Gadamer qui dit ça. Il dit, au fond, la vraie entente, la vraie écoute, c'est que je m'assois avec quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, mais je suis capable de l'écouter en pensant qu'il a peut-être raison. Ça a l'air simple, dit de même, mais c'est pas simple du tout à faire. Cette entente-là, cette compréhension-là est très, très difficile, puis je la vois pas, je la vois de moins en moins. Ça m'inquiète.
Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous?
Je pense que l'insécurité économique joue beaucoup. Je pense qu'à partir du moment où les êtres humains sont inquiets de payer leur loyer ou de garder leur job ou de bien habiller ou nourrir, faire éduquer ou soigner leurs enfants, et là, je pense qu'il y a une grande instabilité économique. Les gens n'ont pas la tranquillité d'esprit par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qui exerce. Moi, je trouve que les vraies révolutions sont toujours économiques, en fait. Au-delà des combats d'identité, ça reste de, est-ce que je peux me faire soigner? Est-ce que je peux élever mes enfants? Est-ce que je peux me nourrir puis payer mon loyer? À partir de ça, quand tu touches à ces choses-là, il y a un effet de boule de neige. Là. Et là, il y a toutes sortes d'exacerbation, de déformation du débat, de faux débats qui naissent. Puis ça, je pense que ça contribue beaucoup à l'inflation verbale puis à la violence.
C'est drôle, on n'entend pas souvent cette explication-là. Quand je questionne des gens qui ont eux aussi remarqué que le discours public est comme de plus en plus polarisé, on nous sort plus des arguments identitaires, tu sais, clash démographique... on a des populations qui se modifient, donc forcément, il y a des frictions nouvelles, mais on oublie effectivement les enjeux économiques. C'était même à se demander s'il n'y en a pas qui en profitent pendant ce temps-là, finalement, pour continuer de faire des gains, pour continuer de s'enrichir.
Mais tu parles. C'est sûr que moi, je trouve que toutes les guerres culturelles qu'on connaît, qui sont importantes, où il y a toutes sortes de revendications souvent légitimes, tout ça, mais le capital, lui, il se frotte les mains. Là. C'est bouffez-vous le nez entre vous autres. On s'en fout. Nous, on va faire les produits qui suivent. Là. On va vendre nos produits. Là. Je pense que la lutte des classes, ça existe encore. Je pense qu'il y a des riches, puis il y a des pas riches, puis il y a des gens qui monopolisent la, la richesse. Puis la plus-value que le système capitaliste produit, elle n'est pas, bien redistribuée. Et là, on est dans une phase un peu critique. Puis tout le monde le dit, les chiffres sont là. Je veux dire, il y a un accroissement des écarts stupéfiant.
Vous êtes un amoureux de l'histoire du Québec, hein, vous?
Oui.
On a ça, on a plus que Vice caché en commun, on a ça aussi. Vous avez, il y a au moins deux pièces, le Wild West Show, l'Empire du Castor, ça c'est...
Qu'on vient de faire.
Oui, c'est ça, ça fait pas longtemps, ça. Cet amour-là, pour l'histoire du Québec, il est né comment?
Écoute, moi, je trippe sur l'histoire, j'ai toujours trippé sur l'histoire. Moi, mon père, c'était un journaliste qui s'intéressait aussi beaucoup à l'histoire. Il avait même beaucoup lu sur l'histoire du Québec. Il y avait beaucoup de livres d'histoire chez nous. Peut-être si j'avais pas été en théâtre, peut-être j'aurais été en histoire. Ça m'a toujours passionné, même petit. J'ai toujours lu beaucoup de livres d'histoire. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un aspect aussi théâtral dans l'histoire. C'est quand même des gens costumés autrement. C'est des gens c'est comme des personnages en partant, au fond. Et puis ça m'a toujours attiré. C'est l'idée de se transporter ailleurs, au fond, de s'évader. Je pense que... Et puis, je me lasse pas. En fait, je lis beaucoup plus de livres d'histoire que de n'importe quel autre livre. Romans, poésie, théâtre confondu. Je pense que la plupart des livres que je lis, c'est des livres d'histoire.
Y a-t-il une figure historique au Québec qui est incontournable pour vous, dans votre façon?
Ben, Papineau.
Papineau?
Papineau, c'est une figure exceptionnelle, extraordinaire. Je me désole qu'il n'y ait pas eu un grand film encore qui a été fait.
Malgré l'exil?
Ben, malgré l'exil. Ce qui est fascinant, c'est qu'il arrivait... dans la première moitié du 19e siècle, avec des idées extrêmement progressistes au niveau de la démocratie. C'était vraiment très progressiste. C'est pour ça que l'Église, l'anathème total, tu sais. Après l'exil, ben, je pense qu'il n'y a pas eu trop le choix de ça. Mais je trouve que c'est un personnage, un orateur extraordinaire. Je trouve que c'est un type très qui offrait une sorte de un nationalisme très ouvert, je trouve. J'admire beaucoup la figure de Papineau. Et puis, ben, y en a d'autres figures.
Déjà, Papineau, je trouve que ça en dit long sur déjà ce que vous disiez de Falardeau, parce que Falardeau, probablement, à choisir, il aurait pris Delorimier.
Il l'a fait.
Il l'a fait, d'ailleurs. Oui. Non, mais c'est vrai, mais Papineau, je ne sais pas ce que pensait Falardeau de Papineau.
On n'a pas parlé de Papineau.
Probablement que pour lui, c'était quand même aussi... à la fin de la journée, quelqu'un qui s'était enfui, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient morts sur l'échafaud.
Il parlait même de devenir un État américain.
Ça a peut-être inspiré.
Ben, écoute, je pense que c'est quand même un personnage fascinant. Puis il y a toujours des angles morts dans tous les personnages historiques, là, mais je trouve qu'au niveau des idées sociales, c'est un gars très en avance sur son temps.
Ouais. J'ai reçu Biz ici il y a quelques mois, puis Biz, c'est un amoureux de la Nouvelle-France, donc ben c'est oui. avant les rébellions des patriotes, mais il m'a dit un truc qui m'a marqué, il m'a le même répété à la radio tout récemment, il dit « on aime les perdants sympathiques, tu sais, les personnages qui crient pas trop fort, qui sont les meilleurs, tu sais, il dit « je comprends toujours pas, là, 400 ans plus tard, pourquoi d'Iberville n'est pas enseigné partout. »
J'ai eu droit au même discours quand il est venu voir l'Empire du Castor, mais nous, c'est l'histoire de la compagnie de l'abbé Dutson. Fait qu'on dit, OK, on peut pas raconter les 350 ans. Fait qu'on a pris la période où il y avait Sir George Simpson, un Écossais qui a été 37 ans gouverneur. On dit, ça va être notre fil rouge, Jean-Marc. Puis moi, c'est dit, ça va être ces 37 années-là. T'sais. Il est venu voir le show qu'il a bien aimé à Québec. T'sais. Mais pourquoi tu parles pas de l'époque où les Français gagnaient des batailles puis plantaient les Anglais? Je dis, j'aurais bien aimé, j'adore cette période-là. J'adore d'Iberville, mais là, ça aurait été trop long. Mais je comprends sa remarque. Puis je trouve qu'il n'y a pas tort. Je pense que... Moi, je pense qu'on a un rapport un peu blessé à notre histoire. On a un rapport un peu névrosé, un rapport un peu tordu. Oui, il n'y a pas tort dans ce sens-là. Même René Lévesque, que j'admire tant, il y avait un côté, à un moment donné, victime à la fin. Le gars qui est défait...
Mais c'est ce qui l'a rendu attachant pour certaines personnes.
Voilà,
C'est l'homme brisé.
Mais même le surnom, Petit Poil.
Petit Poil.
Donc déjà, tout de suite, il faut ramener les gens à une dimension un peu commune, ordinaire. Comme ouais. si on... Ouais. Alors, ça, de... je suis bien d'accord. Oui, je suis d'accord.
Mais ça, c'est bizarre parce que ça, c'est un grand drame, là. C'est pas une tragédie.
On reprochait à Jacques Parizeau d'être trop...
truculent.
Seigneurial, en fait. Ouais. Mais pourquoi lui reprocher ça? Il y avait de la stature, il y avait, tu sais...
Trois pièces, le scotch.
Voilà, tu sais. Ben
ouais, la London School.
PhD London School, écoute, ah ouais. Tu sais. Mais là, ça faisait peur aux gens.
Ouais. Hein? C'était peut-être comme dans les beaux malaises, c'était trop pour nous. Tu sais, c'est une ligne d'une fille des beaux malaises. Ouais. Non, mais c'est des fois, c'est déprimant,
est-ce que,
là.
Est-ce que tu penses que c'est... Puis là, moi, je te retourne la question, ouais. Là, je deviens à l'intérieur, mais est-ce que tu penses que ça va être la même chose pour ta génération? Puis celle de mon fils, puis tout ça.
Ben, je peux juste spéculer, mais si c'est un
vous
mal...
avez peut-être plus les mêmes complexes, vous avez peut-être plus la même... C'est peut-être plus la même atmosphère. Cette intimité-là avec votre histoire, elle va peut-être changer de modalité, non?
Peut-être, mais je pense que la meilleure façon de spéculer de façon, disons, responsable et structurée, c'est de regarder les gens qui émergent, là, les nouvelles figures. Quand il y en a qui sont particulièrement confiantes, c'est quand même suspect déjà en partant. On dit « Ah ouais, il avance de c'est façon vrai. Convaincante, ouais. Lui. Il voudrait pas non plus s'asseoir, hésiter un peu, tergiverser. On est plus habitué à ça. » Moi, ça m'inquiète.
Toi, tu le sens toi-même, ouais, chez les gens sens. De ton âge.
Ben, mettons, si on prend juste le mouvement souverainiste, un gars comme Plamondon, le fait qu'il soit têtu et teigneux et obstiné, pour certaines personnes, c'est suspect. Ça voudrait dire qu'il ne consulte pas. Ça voudrait dire qu'il n'est pas à l'écoute, qu'il est obstiné. Il est peut-être juste convaincu.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça, c'est un problème, parce que si on est un indépendantiste et que ça nous fait peur, c'est parce qu'on n'a toujours pas compris comment gagner. Là. Tu sais, c'est Washington qui disait « Je mourrai président ou sur l'échafaud. » Il n'y avait comme pas deux options. Il faut quand même s'inspirer de ceux qui l'ont obtenu, leur indépendance, là, des fois, là, pour voir que c'est ça prend pas des hésitants puis des hésiteux.
Ouais. Mais tu sais, Washington, c'est une personnalité complexe en même temps. Là, c'est pas un enfant de cœur non plus. Là.
Tant mieux, Colin. J'espère que les
Américains... Mais les Français y ont goûté, puis les Autochtones aussi. Là, c'est tout un personnage.
C'est évident. Non, c'est évident.
Mais c'est sûr que... Oh, oui, c'est... Mais écoute, moi, je sais pas, je suis plutôt optimiste. J'ai l'impression que ta génération, celle de mon fils, ils n'auront plus ces mêmes complexes-là, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Hein,
non, mais je n'ai pas dit que j'étais pessimiste, mais je pense que... C'est, mais sur quoi vous appuyez
pour
dire ça?
Il y a une ouverture sur le monde aussi. Je regarde mon fils, puis ses chums, puis les gars comme les filles, ça voyage, puis ils n'ont pas peur de rencontrer du monde de partout, puis je suis plutôt optimiste dans ce sens-là, tu sais... Mais sur le fond, je suis même d'accord avec toi, je suis d'accord avec Biz. Je trouve qu'on a un rapport très bizarre avec notre histoire, incompréhensible des fois. Puis c'est vrai qu'il y a des héros de la Nouvelle-France aussi. Il y avait des gens incroyables, des explorateurs incroyables, des aventuriers. Des chefs militaires, des stratèges, des... Bien sûr, mais oui, bien sûr.
Mais oui, non, mais des femmes aussi, mais de l'incarnation, une espèce
mais tu sais, on sous-estime, Rémi, on sous-estime les impacts des défaites. Plaine d'Abraham, même si c'est une bataille qui a duré 20 minutes, où on n'a pas vraiment perdu parce qu'ils ont gagné à Sainte-Foy un peu plus tard, mais quand même, la France s'est débarrassée de son empire avec une signature sur un papier. Mais... Et la noblesse et le haut clergé sont retournés en Europe. Ils ont un peu abandonné les gens. Et là, ça laisse des traces dans la conscience et l'inconscient d'un peuple. Alors, faut pas s'étonner de ça non plus.
Non, je m'en étonne pas du tout. Oui. Je m'en désole parce que j'ai un amour profond pour les gens d'ici. Je les trouve meilleurs que ce qu'ils pensent qu'ils sont.
Oui.
Puis je leur invente pas des qualités. Je les ai constatées, je les ai vus partout, je me suis promené, c'est un peuple admirable. T'sais, c'est juste qu'il faut quand même se rappeler que si c'est pas nous qui nous racontons nos belles histoires, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place.
Mais c'est ce que Hubert Aquin disait. Il dit qu'il faut arrêter de se valider à travers les yeux des autres. Ouais. Hein? C'est ça la fatigue culturelle du Canada français. Là. Il faut arrêter de se valider à travers les yeux des autres.
Il y a une série à laquelle vous avez collaboré dans les dernières années qui a fait beaucoup de bien. Je l'ai senti. Moi, j'ai vu des gens de tous les âges regarder ça puis dire « Enfin, ça fait du bien. Il me semble qu'on ne s'empêche. » Les mecs,
ouais.
Ça a fait du bien aux gens. Est-ce que vous êtes promené, vous êtes allé faire votre épicerie, vous êtes allé prendre un petit verre, je ne sais pas, au bar. Il y a des gens qui sont peut-être venir vous voir.
Bien sûr.
Dire « Ça fait du bien. On peut encore se faire des blagues, même rire un peu des woke. » là.
Oui, oui, non, écoute, les gens, ça a été une série très appréciée, puis je me suis fait accoster beaucoup sur la rue, partout, au restaurant, dans les marchés, les gens ont beaucoup aimé ça, puis on prit ça parce que ça, c'est une comédie.
Ben oui.
Une comédie où, tu sais, c'était un peu étrange parce qu'au début, les gens disaient « Ah, pourquoi un truc sur les hommes encore? » Je dis « Ouais, mais regardez, les hommes qui sont là, franchement, ils ont de la l'autodérision est là, là. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'humour, ils se prennent pas pour le sommet du monde, ou bien au contraire, puis... Non, écoute, c'était très agréable à faire, puis je pense que c'était bien écrit, puis efficace, puis drôle, puis les gens étaient contents.
Est-ce que vous aviez peur depuis quelques années, je sais pas, politiquement correct, puis art, puis culture, ça peut pas faire bon ménage. Est-ce que vous aviez peur de ne plus voir une série comme ça survenir, puis de plus voir des textes irrévérencieux, puis moqueurs survenir?
Écoute, à chaque génération, la tonalité change. Tu sais, il y a des choses qu'on peut plus... Il y a des farces qu'on peut plus faire aujourd'hui qu'on faisait avant, mais souvent pour de bonnes raisons. Parce que, un, c'est plus drôle, puis deux, parce que c'est facile, puis c'est... Mais tout discours porte sa caricature. Puis c'est sûr que quand on cherche à aménager tout le monde d'une façon absurde, des fois, où là, tout à coup... Il y a une espèce d'autocensure qui se pratique, qui confine à l'absurde, qui devient caricaturale. Moi, ce que je vois, ce qui est important pour moi, c'est toutes les sociétés, puis ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau, c'est des groupes qui sont en lutte pour la reconnaissance. Hein? C'est le parcours de la reconnaissance qu'il faut voir. Dans les années 60, les Canadiens français n'auraient pas accepté qu'il y ait une pièce jouée par des anglophones qui se foutent de leur gueule. Des gens qui ne parlent même pas français, qui font un show au théâtre, qui parlent de façon en dérision des Canadiens français. Nous autres, on aurait fait « Hey, c'est ça, ça manque de classe complètement. On n'est pas impliqué là-dedans. Vous foutez de notre gueule, vous ne parlez même pas notre langue. » Bien, c'est comme si le groupe disait « On n'est pas reconnu. » Donc, il y a une lutte pour la reconnaissance. C'est normal. Aujourd'hui, c'est d'autres groupes qui se manifestent parce qu'ils veulent être reconnus à part entière. Évidemment, reconnaissance, tu sais, il y a trois types de reconnaissance. Il y a une reconnaissance qui est, juridique, mais ça, c'est dans le cadre de la loi. Là. Tout le monde. Il y a la reconnaissance, l'amour à travers la famille, mais ça, tu as la chance d'être dans une famille qui a de l'allure ou qui n'a pas d'allure. Ça, je ne peux pas rien faire. Puis il y a une reconnaissance sociale. C'est de dire, bien, je suis peut-être éboueur, mais je suis aussi respectable qu'un médecin. Bien, c'est la même chose pour les ethnies, pour le sexe, pour tout ça. Et cette lutte pour la reconnaissance, elle est normale, elle a toujours existé, c'est propre à notre... Mais après, il ne faut pas tomber dans la caricature de ça.
Ouais.
C'est ça.
Non, mais vous avez comme... Tu
sais, c'est des sujets complexes, compliqués. Puis je pense qu'il y a des débordements facilement, mais il faut les signaler. Puis, tu sais, on le sait, nous, on demande des subventions. Là. On l'a vu changer les formulaires au Conseil des arts. Là, tu sais, dit, qu'est-ce que vous faites pour telle cause? Comment incluez-vous telle personne? Bien, on s'explique. Bien, dit, oui, c'est vrai, on est sensible à ça, mais quand on écrit une pièce de théâtre sur tel sujet, je vois pas pourquoi on modifierait notre projet artistique. Là,
puis est-ce que ça satisfait les gens qui demandent des
subventions? Nous, on est subventionnés, puis on n'a pas été punis parce qu'on ne remplit pas toujours tous les critères demandés. Puis on s'explique. T'sais. Mais
il y a quand même
mais
pas
c'est
un problème.
Sûr qu'il y a eu des débordements.
Il n'y a pas un problème quand même. Puis je veux pas vous mettre dans merde. Là.
Non, ouais, vas-y.
Non, c'est juste que je me semble qu'un créateur, un artiste, n'a pas à se faire dire. Tu vas devoir me mettre du monde de ce profil-là là-dedans, sinon, ben, on ne te le dit pas clairement que tu n'auras pas la subvention, mais en tout cas, tu ne seras peut-être pas le premier sur la liste.
Tu perds des points.
Non, mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Là,
je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire dans le sens que moi, je suis contre toute forme de censure. Le problème, la particularité, c'est que c'est de l'argent public. Donc, c'est des gens qui ont été élus, qui représentent la population, qui donnent des fonds publics. Fait que moi, je veux bien revendiquer comme artiste d'être libre, mais en même temps, je demande de l'argent public.
Je comprends.
Alors, c'est sûr que je suis pogné. Tu sais, ça pourrait être... Si c'était des conservateurs de halo vraiment conservatrice qui étaient à Ottawa, puis ils pourraient nous dire, vous parlez pas d'avortement dans votre show, là. Ça va arriver, ça. L'ingénierie sociale, là, avec l'argent public, ça peut arriver de tous les côtés.
Ouais.
C'est pas juste un problème woke, là. Ça peut être un problème d'ultra-conservateur. Comme aux États-Unis, s'il y a des subventions aux artistes qui ont été coupées dans des musées, dans tout ça, parce que position, tout le rapport à l'avortement là-bas, c'est comme une bombe, là. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire que moi, l'ingénierie sociale avec l'argent public, ça m'emmerde, mais c'est moi qui n'ai pas assez fort et assez important pour dire, hey, on va s'autofinancer, achetez-moi un billet, venez voir mon show. Pas capable de faire ça.
Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui... puis je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Là. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux. Là. Vous l'avez lu, alors, si vous y êtes, mais... Ah, les artistes, ils ne peuvent pas faire leurs affaires sans subvention. Prenons le théâtre. Ça serait-tu possible?
Non.
Non?
Non.
Est-ce que c'est parce que les gens ne vont pas vous voir?
Non, parce que le marché est trop petit. Et alors là, moi, à cette personne, je lui retourne la question. Qu'est-ce qui n'est pas subventionné au Canada? Hostie. Qu'est-ce qui n'est pas subventionné? Tout est subventionné. Les emplois industriels, toute l'industrie est subventionnée. C'est épouvantable. L'argent public qui va au secteur privé. Les routes que je paye pour leurs camions, l'eau qu'on purifie pour leurs usines, les emplois subventionnés, les tarifs d'électricité à rabais, c'est partout. Le Canada est un pays subventionné. Alors, je trouve que de reprocher aux artistes de prendre même pas 2 % du budget, je trouve que c'est fort de café. Tu sais, peut-être on est rendu à 1,5 % du budget de la province pour la culture et le sport. Puis on va nous dire, vous êtes des fat cats engraissés avec nos impôts. Non, c'est pas assez fort. La démonstration n'est pas assez forte. Là.
Mais il y en a qui disent, non, mais je vous suis. Puis en plus, moi, le jour où j'ai compris que l'industrie pétrolière était subventionnée puis qu'il y avait beaucoup de gens plus à droite qui disaient, hey, les artistes, on va arrêter de subventionner, j'étais comme, ben là,
oui, c'est ça.
Je sais pas, là. Si tout le monde est subventionné, je pense que c'est plus une question de goût, là.
Ouais.
Mais y a-tu quand même un enjeu? Moi, c'est sûr que les Cowboys fringants, ils ont été subventionnés au départ, puis il y a probablement qu'ils l'ont été jusqu'à la fin de leur dernière tournée, mais des fois, il y a des artistes qui naissent puis qui vivent parce qu'on les célèbre et on les écoute et on a besoin d'eux. Puis je vois beaucoup de... Puis ça vient de moi, là, ça vient pas des autres. Je vois d'autres artistes vivre de subventions. Puis je me dis, ben si au début, c'est ça le deal, puis un jour, ils peuvent décoller, tant mieux. Mais des fois, ça décolle pas. Puis est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire?
Oui, je comprends. Oh, ouais.
Il faut pas non plus mettre l'art sous le respirateur artificiel.
Ouais. Mais je te dis... Écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je te disais, concrètement, là, tu sais, j'en ai fait des jurys là, sur le calque puis le CAC, là, tu sais, les conseils qui distribuent.
Conseil des arts, des lettres, là, tout ça.
Il y a quand même beaucoup de demandes, peut-être trop, mais il y en a très peu qui sont subventionnés. C'est un processus, là, c'est comme aller aux Jeux olympiques, là. Fait que c'est pas comme s'il y avait un robinet d'ouvert puis les pièces de vos impôts, là, tu sais, pas du tout, du tout, du tout. Tu sais, je pense que si on parle du Québec, là, toutes les petites cultures, les petits pays, ils sont obligés de subventionner. Sinon, il n'y a pas de poids. Dans le système capitaliste, il n'y a pas de marché suffisant pour avoir un théâtre national, un cinéma national, une TV nationale. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est un peu indépassable. Puis... tu sais, la Chine, l'Inde puis les Américains n'ont pas ce problème-là. Il y a tellement de capitaux en circulation, il y a tellement de consommateurs. Tu sais, je regarde les prix des billets de théâtre à New York, je veux dire, qui à Montréal peut payer 150$ pour aller voir un show? Tu sais, même ce type de consommation-là, je veux dire, on n'a pas assez de monde pour payer ça, pour faire vivre des théâtres privés comme ça. Fait qu'on peut juste vendre des billets un certain montant, parce que sinon, les gens ne suivent plus. Mais en vendant ce montant-là, il faut quand même chauffer le théâtre. Ben ça oui. coûte le même prix qu'aux États-Unis, puis l'éclairer. Puis... Alors, je ne veux pas rentrer trop dans... Il y a des gens plus compétents que moi pour te faire le portrait économique de ça, mais il ne faut pas être simpliste. Et c'est compliqué.
Moi, je pense qu'il faut mesurer aussi ce qu'on perdrait.
Voilà.
Parce qu'il y en a des fois qui... Je pense que ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils sont méchants, mais... Ils veulent peut-être assainir les finances publiques, puis ils se disent, bon, on pourrait couper là, puis ça ferait du bien. Mais il faut quand même, à chaque fois qu'on dit ça...
Tu gagnerais pas grand-chose.
Non, mais il faudrait... Oui, non seulement ça, ben, tu sais, on nous dirait qu'un pour cent, 1,5%, ça reste 1%, 1,5% de milliards, mais ce qu'on perdrait, est-ce que ça vaut la peine? En tout cas, moi, je dis non.
Ben, en tout cas, surtout si tu es souverainiste, puis si tu perds toutes les voix d'artistes. Puis, tu sais, je perds le fil, mais je... Ça va me revenir.
Il y a un artiste, y a-t-il un artiste vivant qui n'est pas très connu et qui, pour vous, est sublime? Ça peut être un comédien, un écrivain, ça peut être n'importe quoi, puis peut être un peu connu, mais méconnu un peu.
Oh! C'est une belle question, ça. J'aimerais ça bien y répondre. C'est important de poser des questions comme ça, justement, parce qu'il n'y a pas juste les gens... La célébrité, ça a pris trop de place, des fois. On accole qualité et célébrité, mais attends, non. Tu sais, McDonald's est célèbre, mais tu mangerais ça tous les jours, tu ne serais pas content.
Non. Puis il y a des gens aussi qui se fait bon d'aimer, c'est-à-dire on dit ça, c'est un grand artiste, mais on ne l'a pas...
On le connaît pas tant que ça.
Oui, c'est ça, c'est bon chic, bon genre.
Oui. Il y a tellement des bons acteurs au Québec, là, des actrices extraordinaires qui sont pas très connues. Mais toi, il y en a un qui me vient en tête, qui est un type que j'aime beaucoup, qui est un peu connu, mais qui n'a jamais eu, je trouve, assez sa lumière, c'est Stéphane Jacques. Je sais pas si tu le connais.
Oui.
C'est un acteur extraordinaire. Puis je me souviens, quand on faisait des films, Louis et moi, on essayait toujours de lui trouver un petit rôle ou quelque chose. Il y a plein de figures comme ça qui sont pas très connues, mais qui sont... tu le sais, sur une scène, il se passe quelque chose. Et pourquoi c'est qu'une sincérité, quelque chose d'entier, de fin, puis en même temps d'humble, l'humilité de ces gens-là, fait des grands artistes. Puis... Ah oui, des fois, la célébrité, qu'est-ce que tu veux, ça écrase un peu tout ça, hein, malheureusement.
Puis parmi les gens plus connus, là, c'est qui mérite le plus tout l'amour qu'on lui donne puis tout le respect qu'on lui donne?
Oh ben c'est sûr que Guylaine Tremblay, pour moi, ça l'a l'amour, mais elle le mérite. C'est une grande actrice. Bonne amie, je suis un peu biaisé, mais c'est une grande actrice. J'ai rarement vu... Moi, je pèse mes mots. J'ai rarement vu quelqu'un exceller autant dans la comédie ou le drame. C'est vraiment une actrice d'une drôlerie incroyable. J'ai rarement vu une actrice maîtriser autant la comédie classique que le langage terre-à-terre, une série télévisée. C'est une actrice de répertoire, Guylaine, aussi, là. Elle a une technique incroyable. Mais là, tu sais, je m'étends à Guylaine. Les gens la connaissent, puis les gens l'adorent.
Non, mais c'est pour ça que j'ai posé la question comme ça.
Oui, hein, c'est ça.
J'ai dit, il y en a qui méritent tout l'amour qu'ils ont. Puis tu sais, Guylaine a quelque chose dans sa voix, je trouve. Moi, c'est une voix très, très, très québécoise. Là, on entend à la coiffeuse,
une voix basse. Ouais. Alors, à un moment donné, je me suis dit, on était en France tous les deux. On était dans le sud de la France. Et puis, elle faisait des réservations de train pour nous autres. Puis là... Alors, très bien, monsieur, je révise donc. Les gens, quand ils étaient au téléphone, pensaient que c'était un homme. Parce que, tu sais, en France, on dirait que le pitch de la voix était un peu plus haut. Guylaine, évidemment, avec sa voix de basse. Tu sais, monsieur Tremblay.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alexis Martin, avec ce livre-là, L'étoile de la rédemption? Est-ce que vous le voyez déjà au cinéma? Est-ce que c'est vous voulez vous mettre à écrire d'autres romans?
Oui, c'est ça. Mais moi, plus il est apprécié, plus ça m'encourage. Mais j'aimerais ça écrire d'autres romans. J'ai la piqûre. Je sais que je suis encore capable de jouer, mais avec l'âge, je vais avoir le goût des fois d'être plus dans mes affaires, puis d'écrire. J'ai le goût d'écrire des récits encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai adoré faire ça. Puis ben, j'espère, ce que je voudrais, c'est qu'il soit lu le plus possible, puis en parler avec les gens, mais écrire un autre récit, certainement, j'ai déjà commencé. Mon problème, c'est quelle histoire je raconte. Là. J'en ai deux, trois devant moi, là, puis j'essaie de...
Avec des post-it de deux différentes couleurs, c'est ça?
Oui, ben, des notes. Ben, je fais beaucoup de synopsis, là, moi. Ouais. Ça me vient beaucoup du théâtre, je fais beaucoup de synopsis, fait que j'essaie de trouver la bonne histoire à raconter. Puis tu sais, c'est grave, parce que quand on s'engage à une histoire, c'est pour plusieurs années, fait qu'il ne faut pas se tromper de sujet.
Mais en tout cas, en espérant qu'il voyage un peu ce roman-là, au moins, merci de m'avoir happé comme ça. Merci d'être venu.
Merci beaucoup, c'est un plaisir.
Vraiment. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, ben, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne tout à fait gratuitement. Vous devenez abonné. Si vous voulez accéder aux épisodes d'avance, ben, il y a Patreon, le lien est dans la description. Sinon, ben, il y a YouTube, vous faites juste peser sur « rejoindre »,« se joindre ». Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, vous allez, en échange d'une somme modique, accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, à du contenu exclusif pendant 3 mois, ainsi que vous aurez la possibilité d'assister à des enregistrements en studio. On va recommencer à faire ça très prochainement, à mardi prochain.